Jésus a souffert comme personne ne souffrira. Ce n'est pas pour rien que Marguerite Marie a demandé qu'on représente le cœur de Jésus couronné d'épines et surmonté d'une croix. Jésus, là, il a été écœuré par le péché du monde, plus que n'importe qui, plus que le Padre Pio ou que Saint Vincent de Paul. Donc vous n'insisterez jamais assez sur l'homme des douleurs qu'a été Jésus, mais en même temps, l'homme des béatitudes. Comme il dit Optivane, si je te demande d'être toujours joyeux, c'est que je l'ai été moi-même. Comment Jésus pourrait-il nous demander d'être joyeux s'il n'en avait pas donné l'exemple? Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement habitués à voir des crucifix qu'ils oublient que Jésus, il a été heureux. Il a jubilé. Et pour présenter Jésus, il faut toujours présenter des contrastes. Être, c'est pas ou bien c'est à la fois très heureux, à la fois très malheureux. Eh bien, c'est la même chose pour les âmes du purgatoire. Elles sont très heureuses et très malheureuses. Très heureuses d'être sauvées, elles sont sûres de ne pas aller en enfer, elles sont sûres d'aller au paradis, c'est une question de temps, elles iront et elles entrevoient déjà toute la miséricorde de Dieu, bien plus que vous. Elles voient bien plus la miséricorde de Dieu que nous tous. Mais justement, leur souffrance, c'est de ne pas pouvoir aller se coller contre Dieu, de ne pas pouvoir plonger définitivement dans l'océan. Elles se rendent compte qu'elles sont tellement pleines de rouille, pleines de méchanceté. Je ne peux pas aller danser avec, j'ai dit trop de mal de mon prochain, j'ai encore trop de méchanceté dans le cœur, il faut que ça se purifie tout ça. Et elle, il ne s'agit pas pour elles de demander pardon de leur péché, c'est fait depuis longtemps, c'est pardonné, on n'en parle plus. Dieu ne leur dit pas toujours, et t'as fait ceci, t'as fait cela, je te punis. Non! C'est elles-mêmes qui se précipitent dans le purgatoire pour se purifier, elles le désirent, le purgatoire. Ce n'est pas une punition, mettez-vous bien ça dans la tête. Ne présentez pas, si vous faites de la catéchèse, le purgatoire comme punition, parce que Hitler, par exemple, il a tellement fait de bêtises qu'il faut quand même qu'il aille souffrir un petit peu, quoi. Ce serait sadique. D'ailleurs, la souffrance, ça ne purifie rien. Et il faut lutter contre cette façon un peu populaire de dire les choses. Cette personne-là, elle a tellement souffert qu'elle a fait son purgatoire sur la terre. Alors, si c'est la souffrance qui purifie, vous devez souhaiter la souffrance à vos amis, ce qui serait affreux. Ce n'est pas la souffrance qui purifie, c'est l'amour. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, à l'occasion de leur souffrance, comme Jacques Le Breton, qui, à l'occasion de leur souffrance, sont acculées à faire un progrès formidable dans la foi, l'espérance et la charité. J'ai rencontré ces jours-ci, en prêchant une retraite, un couple qui m'a avoué l'épreuve qui a marqué leur existence pendant des années, un de leurs fils a fait 7 tentatives successives de suicide. Il s'en est sorti maintenant. L'un et l'autre m'ont dit très sérieusement, et ce n'est pas moi qui avais mis la conversation sur le sujet, que ce fut une très grande grâce dans leur vie. Que finalement, cela les avait acculés à mettre en Dieu toute leur confiance. Très bien. Je les ai écoutés avec beaucoup de respect et d'admiration. Mais je ne vais jamais dire, et eux-mêmes ne vont jamais dire à une personne dont le fils n'aurait fait qu'une seule tentative de suicide, « Vous savez, madame, un jour, vous verrez que ce suicide de votre fils, c'est la plus grande grâce que Dieu ait pu vous envoyer. » Il faut être complètement débile pour dire des choses pareilles. Laissons chacun faire son expérience. Je vous ai déjà dit que Mado Morin, cette femme dont le fils Patrick Devers s'est suicidé, celui qui devait jouer le rôle de Marcel Cerdan dans un film sur Édith Piaf. Mado Morin a écrit dans un livre, et parce que c'était vrai, que le suicide de son Patrick fut pour elle une grande grâce, parce que du coup, elle a été obligée de tourner les yeux vers le ciel, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Mais la seule fois où j'ai eu l'occasion de la rencontrer, j'ai eu le temps de lui demander, « Madame, je suppose que vous ne diriez jamais ça dans une conférence. » « Bien sûr que non, mon père. » Ce n'est pas parce que moi, j'ai eu cette expérience-là que je généralise mon expérience. Vous savez très bien, et c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, qu'il y a des épreuves comme ça, des deuils, qui risquent de vous faire révolter contre Dieu pendant très longtemps. Et Dieu ne vous en veut pas. Il sait bien que c'est terriblement dur à accepter. D'ailleurs, il y a un tas de psaumes que vous pouvez reprendre à ce moment-là. « Seigneur, j'en ai ras-le-bol. Seigneur, les eaux me submergent la tête. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. » Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. On a tout à fait le droit de dire cela à Dieu à ce moment-là. On n'est pas obligé de dire tout de suite, Seigneur, je te rends grâce. Si vous pouvez le dire assez vite, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas le dire tout de suite, c'est pas grave. Vous ressemblez beaucoup à Jésus. Jésus a désiré toute sa vie arriver à l'heure de son sacrifice. Quand il est au pied du mur, il n'a plus du tout envie. Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne loin de moi. Jésus ne va pas avec enthousiasme au calvaire. Il n'a pas de courage. C'est une page extraordinaire de vérité, je vous ai dit l'année dernière. Gethsémani, c'est une page qui n'a certainement pas été inventée par les évangélistes. Oser présenter le Fils de Dieu comme quelqu'un qui a la frousse devant la mort, c'est quand même pas glorieux. Ça, c'est vrai. C'est véridique. Bon, donc, tout ça pour dire que, au purgatoire, les âmes sont à la fois heureuses, très heureuses et très douloureuses. C'est un mélange. Heureuses de ne plus pécher, remerciant Dieu d'être sauvées, d'avoir été pardonnées toutes ses fautes, et le feu de l'amour divin fait remarquer le père de Lubac, font remarquer finalement tous les saints. Le même feu divin est pour l'un supplice, l'enfer, pour l'autre purification, le purgatoire, pour l'autre enfin béatitude. Les mystiques, ceux qui ont éprouvé profondément dans leur cœur la purification que l'Esprit-Saint y produisait, ont souvent comparé leur nuit à la souffrance du purgatoire. Par exemple, lorsque Thérèse d'Avila parle de la purification que subit l'âme dans les sixièmes demeures du château intérieur, elle les compare à la peine que connaissent les âmes du purgatoire. L'âme est comme une personne suspendue en l'air qui ne peut se reposer sur rien, ni monter au ciel. Embrasée de la soif de voir Dieu, elle ne peut arriver jusqu'à l'eau qui l'a désaltérée. Elle a soif, elle sait que la source est là et elle n'a pas le droit, elle ne peut pas y boire. Comme dit l'autre, les portes du paradis sont toutes, elles sont toutes ouvertes. C'est pas le Seigneur qui ferme les portes du paradis. Son grand désir, c'est qu'on aille s'y plonger. Seulement, les âmes se rendent compte qu'elles n'arriveront pas à participer à la joie de Dieu si Dieu ne les purifie pas. Il faut qu'elles soient purifiées. Et c'est pas que Dieu veut avoir des gardes républicains sans aucune tâche pour être garde à vous devant lui. Non, c'est pas ça du tout. C'est que elles ne peuvent pas participer à la joie du ciel à cause de toute leur lourdeur, à cause de tout leur égoïsme, de leur sensualité, de leur méchanceté. Elles ne peuvent pas, elles en ont besoin. La purgatoire, c'est une création de la miséricorde de Dieu. Pour ceux qui n'auront pas pris la peine, le temps de se laisser purifier par l'Esprit Saint sur la terre, eh bien, je leur donne une seconde chance. Elles ne seront pas obligées de se réincarner sans cesse dans d'autres existences pour se purifier. Ça se fera au purgatoire.